À la une ce matin, après la Méditerranée, les Alpes, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter d'entrer en France par la montagne, parfois souvent au péril de leur vie. Hier, une opération humanitaire a été organisée pour leur venir en aide. Les associations saisissent le défenseur des droits Jacques Toubon. Il vient leur répondre ce matin. Ça se passe au micro de France Inter, à votre micro Nicolas, dans 20 minutes.
Dans 20 minutes, et vous pourrez dialoguer sur ce sujet avec Jacques Toubon à partir de 8h40. Le standard d'Inter est ouvert, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, le nouveau visage de l'Autriche, 6 ministres d'extrême droite et le regard de Bruxelles, où nous irons dans ce journal. Emmanuel Macron qui détaille son plan de sortie des énergies fossiles, c'était hier soir sur France 2. La prime de Noël qui arrive à partir d'aujourd'hui, plus de 2 millions de Français concernés. Et puis à la fin de ce journal, le sacre des handballeuses françaises, une deuxième étoile mondiale accrochée au maillot. Et puis le retour complètement raté d'Eminem, 9e album et gros flop, nous dira Mathieu Culeron. Eux aussi sont des premiers de cordée, mais ils le font pour sauver des vies. Dans les Alpes, certains cols sont devenus les nouvelles portes d'entrée des migrants qui n'hésitent pas à braver l'hiver et la neige pour tenter d'entrer en France. Moins de contrôle de police, mais le risque souvent d'y laisser la vie. Hier, ce sont les professionnels de la montagne qui sont allés à leur rencontre, accompagnateurs, guides, secouristes. Ils étaient plus de 300 à rejoindre le col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes. Une cordée solidaire qu'a suivi Bleuette Dupin.
Pour Pierre Mimbert, qui loue un gîte à Montier-les-Bains, qui est aussi accompagnateur en montagne, aider ces hommes et ces femmes qui bravent tous les dangers de la montagne, c'est comme les empêcher de se noyer.
Il y a quelques années, quand on entendait parler des gens qui étaient en Méditerranée, j'avais encore l'impression que c'était loin, même si ça me touchait énormément, et je me disais, c'est pas possible que je fasse rien, qu'on fasse rien. Jusqu'au jour où il y a des gens qui sont arrivés là, quoi. Et tu te dis, mais en fait, c'est chez nous. Je trouve ça complètement inadmissible que des gens qui ont franchi tous ces obstacles sur leur chemin et une telle réponse sur la frontière française. C'est une réponse assassine, quoi.
Des hypothermies et même des jeunes gens amputés des doigts, des orteils, ils en ont vu. Les professionnels de la montagne préviennent. Ces migrants sont aussi en danger de mort. Jean-Gabriel Ravary.
Moi, ça fait 42 ans que je suis guide. J'ai déjà trouvé des corps. C'est absolument dramatique. Et là, on a tous les ingrédients pour, entre les dangers de la montagne, les avalanches, le froid, l'hypothermie, la déshydratation, enfin, il y a tout le catalogue pour qu'il y ait des drames.
La surveillance policière ne dissuade pas les migrants de passer. Elle leur fait prendre de plus grands risques, disent les bénévoles qui vont à leur rencontre. Bleuette Dupin, France Bleu, Pays de Savoie pour France Inter.
Et ce matin, ce sont donc les associations de lutte contre l'exclusion qui saisissent le défenseur des droits Jacques Toubon. Elles protestent contre une directive du ministère de l'Intérieur dévoilée dans la presse et qui demande au préfet de recenser les migrants à l'intérieur des centres d'accueil d'urgence. On en parlera avec Jacques Toubon dans une quinzaine de minutes maintenant.
Et ce sera l'image du jour, Marc. L'Autriche met la barre à l'extrême droite.
Un nouveau chancelier qui prête serment, ce sera tout à l'heure à Vienne, en Autriche, où le nouvel homme fort du pays, le conservateur Sébastien Kurz, 31 ans, entrera officiellement dans ses nouveaux habits. Mais pour arriver au pouvoir, il a tendu la main à l'extrême droite. Elle arrive en force dans son gouvernement. 6 ministres, dont ceux de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Intérieur. Tout cela pour un parti, le FPE, fondé par d'anciens nazis. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Correspondant de France Inter à Bruxelles, où le nouveau chancelier est attendu dès demain. Au début des années 2000, Quentin, l'entrée de l'extrême droite au gouvernement autrichien avait provoqué une levée de boucliers en Europe et même des sanctions pendant plusieurs mois. Il n'en sera rien cette fois. Pourquoi ?
Car de toute évidence, le semblant de cordon sanitaire autour du gouvernement autrichien il y a 27 ans s'était avéré totalement inefficace. De plus, on ne pouvait aujourd'hui condamner l'Autriche alors qu'on était resté muet lorsque le premier ministre belge actuel, le libéral Charles Michel, avait fait entrer dans sa coalition le parti de la droite dure flamingante, la NVA, en lui confiant, comme à Vienne, des postes ministériels régaliens, défense, intérieur et finances. Aveu de résignation ou réel politique, beaucoup ici veulent comprendre que les choses ont bien changé depuis les débuts gouvernementaux de la FPE, dirigée à l'époque par le sulfureux Jörg Haider, mais déjà des voix autorisées s'élèvent pour mettre en garde contre toute dérive et pour appeler à une constante vigilance. On a ainsi entendu ces dernières heures le commissaire européen Pierre Moscovici et le ministre italien des Affaires européennes Sandro Gozzi. La Commission européenne a récemment haussé le ton vis-à-vis des tentations centrifuges de la Pologne et de la Hongrie. Ce sera la ligne du dîner, ici, demain, entre le nouveau chancelier autrichien Sebastian Kurz et messieurs Juncker et Tusk. La préoccupation de ces derniers est compréhensible. Dès le mois de juillet 2018, c'est l'Autriche qui hérite de la présidence semestrielle tournante du Conseil de l'Union européenne.
Merci à vous, Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles.
Il est 8h05 et maintenant il marche. Emmanuel Macron invente l'interview des ambulatoire.
Pas d'annonce spectaculaire hier soir dans la bouche du président, mais c'est sans doute la forme de son entretien qu'on retiendra le plus de son passage sur France 2. Un président debout, tout comme son intervieweur Laurent Delahousse. Les deux hommes conversant tout en marchant dans le palais de l'Élysée, salon, escalier et même bureau présidentiel. C'était l'interview en marche. Pour le fond, on retiendra aussi cette promesse. La guerre contre l'État islamique sera gagnée d'ici fin février, dit le chef de l'État, qui estime qu'il faudra bien parler avec Bachar el-Assad pour reconstruire la Syrie. On y reviendra dans Géopolitique juste après ce journal. Mais hier soir, c'est surtout d'environnement qu'il a été question. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Emmanuel Macron a précisé sa méthode pour passer aux énergies propres. Si on résume, un, ça va prendre du temps, et deux, d'ici là, le nucléaire a encore de beaux jours devant lui.
Oui, Emmanuel Macron le reconnaît. Je ne suis pas un activiste du climat depuis des décennies. Mais la lutte contre le réchauffement climatique est désormais une priorité, principe de réalité. La France a donc besoin du nucléaire, une énergie qui émet peu de CO2. Même si le président se défend d'être un idolâtre de l'atome, il reconnaît que le nucléaire, d'ailleurs, occupe une trop grande place dans notre mix électrique, 75%. Mais alors, quel réacteur fermé ? Pas de précision, le président s'en remet à l'autorité de sûreté nucléaire. L'ASN doit donner son avis d'ici 18 mois. Pas de sortie du nucléaire en vue, donc en revanche, la fin du charbon est confirmée. Fermeture des 4 centrales encore existantes. Et puis, le président mise sur les énergies renouvelables. La France est très en retard. Il faut accélérer les investissements, les appels d'offres et simplifier les procédures. Le solaire ne fournit que 1,6% de notre électricité contre 6% en Allemagne et 3,5% au Royaume-Uni. Chaque projet d'éolienne est systématiquement contesté devant les tribunaux. Emmanuel Macron ironise. Imaginez les grands projets d'éolien décidés par Nicolas Sarkozy. Si j'ai de la chance, c'est moi qui les inaugurerai.
Merci Sandy Dauphin. Un mot également sur Nicolas Hulot. Il est inquiet, c'est pour ça que je l'ai choisi, a dit le chef de l'État. Enfin, dernier point abordé hier, l'audiovisuel public. Il ne répond pas à ses missions, estime Emmanuel Macron, qui veut lancer un grand travail de réflexion début 2018. Pas de quoi rassurer les syndicats de la télé comme de la radio publique. Serge Chiminot, délégué du SNJ, le syndicat national des journalistes.
Le seul point sur lequel on pourrait partager son point de vue, c'est que les pratiques ont changé, mais ça on n'a pas eu besoin du président Macron pour s'en rendre compte. Et Radio France et France Télévisions ont évolué, ne serait-ce que pour aller vers le numérique. Pour le reste, on a l'impression que son rêve de nouveau monde serait de créer l'ORTF 2.0 en regroupant Radio France et France Télévisions, ce qui ne veut pas dire grand-chose sans informations supplémentaires. Pour le reste, on apprend qu'un débat aurait lieu entre parlementaires et professionnels. Bah moi, je veux bien discuter avec les députés et les sénateurs pour leur dire que France Télévisions et Radio France ont évolué depuis des années. Mais je pense qu'en revanche, le discours sur l'audiovisuel public de la part des politiques n'a pas beaucoup évolué depuis de très très nombreuses années.
Serge Chiminot avec Isabelle Pasquier. Pour certains, c'est une bouffée d'oxygène avant les fêtes. La prime de Noël est versée à partir d'aujourd'hui à tous les bénéficiaires de minima sociaux et notamment du RSA. Il n'y a pas eu de coup de pouce cette année encore, mais pour les 2,5 millions de foyers qui l'attendent, cette prime évidemment arrive au meilleur moment. Reportage auprès d'allocataires de Lyon, signé Benjamin Glaise de France Bleu Auxerre.
Se faire un petit cadeau, un rituel important pendant les fêtes, surtout quand on est seul. Et Michel a 47 ans, il sait déjà comment il va mettre à profit sa prime.
Une friteuse, je vais m'acheter des pompes. Puis après, je sais pas, avec ce qui reste, sûrement qu'il y a des factures qui vont arriver, donc ça permet de payer aussi, comme ça, ça fait moins à payer sur le mois d'après.
Marquée, elle aussi, par les épreuves de la vie, Brigitte garde le sourire, d'autant que cette prime de Noël, elle craignait de la voir disparaître cette année.
Tous les jours, j'allais regarder quand même. Et puis quand j'ai vu que j'avais droit à la prime, j'ai dit oui. J'ai crié et puis voilà.
Pour Brigitte, qui touche 477 € de RSA, cette prime, elle est vitale et elle connaît exactement son montant.
Oui, 152 €. Et avec ça, eh ben, je vais m'acheter du bois. J'ai essayé de trouver du bois pas trop cher parce que ça tourne autour de 46-48 € le stère. Ça fait vraiment cher quand même.
Habitante de Sémantron, au sud-est d'Auxerre, Brigitte n'a pas d'électricité. Le bois, pour elle, c'est vital pour lutter contre le froid.
J'aime bien le froid puisque j'y suis habituée. Mais quand ça descend en dessous de 10, j'ai froid.
Et à la veille de son anniversaire, cette prime de Noël, c'est un petit cadeau pour Brigitte qui pourra donc fêter Noël au chaud. Un plaisir d'autant plus grand que son fils sera cette année à ses côtés.
Les exclus, les pauvres, les invisibles, il leur avait consacré sa vie René Lenoir, surnommé l'avocat des exclus, est mort ce week-end à 90 ans. Ancien secrétaire d'État sous Valéry Giscard d'Estaing, il avait travaillé aux côtés de Simone Veil. C'est à lui qu'on doit l'une des premières grandes lois sur les personnes handicapées. C'était en 1975. Un mariage a eu naissance et ils sont 100% français. Le groupe Thales, spécialisé dans l'électronique et la défense, va s'offrir Gemalto, spécialisé dans les cartes SIM et qui était mal en point ces derniers temps. Le nouveau bébé sera l'un des leaders mondiaux en sécurité informatique. Enfin, Amazon dans le viseur du fisc, et pour une fois ce n'est pas pour ses impôts. Le géant américain est soupçonné d'abus de position dominante par les services de la répression des fraudes. Il ferait vivre l'enfer à ses fournisseurs en leur imposant des clauses parfois intenables. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a porté plainte. D'après Le Parisien aujourd'hui en France, ses services réclameraient une amende pouvant monter jusqu'à 10 milliards d'euros.
Il est 8h11, le deuil Marc, le deuil et l'enquête dans les Pyrénées-Orientales.
4 jours après l'accident qui a coûté la vie à 5 adolescents, les cours reprennent ce matin au collège de Millas avec une attention évidemment toute particulière pour les enfants qui ont perdu un ami. Quant à l'enquête, elle progresse lentement pour tenter de comprendre comment un TER a foncé dans un bus sur un passage à niveau. Les témoignages, pour l'heure, sont contradictoires. Frédéric Bourgade.
L'enquête s'annonce longue et technique parce qu'il reste des expertises à faire, des vérifications et des témoins à écouter. Notamment les adolescents présents dans le bus et qu'on ne peut pas interroger. Ils sont les victimes d'un drame qu'ils ont aussi vécu. Leur version sur les barrières baissées ou bien levées doit donc être entendue. La conductrice a déjà été auditionnée par les gendarmes. Mais le procureur en charge de l'affaire a expliqué qu'elle était blessée, choquée, ce qui veut dire qu'elle sera réentendue le moment venu. Pour l'instant, elle maintient que les barrières étaient levées, d'où le fait qu'elle a engagé son bus sur la voie ferrée. Une collégienne du second bus derrière elle disait d'ailleurs la même chose. Mais le témoignage humain est faillible quand la technique est neutre. C'est pourquoi le boîtier du mécanisme de la barrière sera expertisé. Il était en position fermée. Le procureur veut savoir si c'est le résultat du fonctionnement normal ou bien de l'accident lui-même. Enfin, avec un drone à hauteur de cabine, les enquêteurs veulent voir ce que la conductrice a visualisé ou pas de la voie ferrée. Il y aura aussi une modélisation 3D de l'accident qui, comme dans un jeu vidéo, permet plusieurs points de vue d'une même réalité. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Et le procureur rencontrera demain les familles des victimes à Perpignan. Quand le plus grand aéroport du monde fait le coup de la panne, c'était cette nuit à Atlanta, aux États-Unis, où une panne électrique géante a provoqué l'annulation de plusieurs centaines de vols. Des passagers ont même été parfois bloqués à bord d'avions. Les terminaux ne fonctionnaient plus, pas plus que l'éclairage. C'est dans le noir que les passagers ont ensuite recherché leur vol. Un milliardaire à la tête du Chili, le conservateur Sebastián Piñera, remporte la présidentielle face à un adversaire de centre-gauche. 54% des voix pour celui qui avait déjà exercé cette fonction de président entre 2010 et 2014.
France Inter, 8h13 et une deuxième étoile pour les handballeuses françaises.
Elles leur avaient échappé par 3 fois ces dernières années. 3 finales perdues, mais cette fois c'était la bonne. Les handballeuses françaises ont rompu la malédiction hier en décrochant enfin le titre mondial face à la Norvège. 23-21, l'arrière des Bleus, Estelle Nzeminko, a du mal à y croire.
Les championnes du monde, genre. Ouais, je suis dépassée là. Je sais pas quoi dire. Je savais que c'était possible, mais je sais pas. Je m'y attendais pas autant comme ça. La manière, tout quoi. Le match qu'on leur a fait, mais dès la première mi-temps, mais c'était plus les mêmes joueuses en fait. En fait, j'adore ce match et toute notre histoire parce que là, c'est pour moi, c'est un peu une leçon de sport aussi dans le sens où c'est des filles qui survolent tout, qui ont un jeu hyper huilé, hyper machin, mais et que tout le monde idéalise. Mais c'est des super joueuses, hein. Tu sais, des fois, tu viens vite à complexer de nana comme ça et je suis contente parce qu'on a respecté à fond ce qu'on avait dit qu'on ferait pour les battre et on a joué cette finale quoi à fond la caisse. Donc genre là maintenant, chaque fois qu'on va faire une compète, si on fait pas une médaille d'or, on va être déçu. Je réalise pas du tout en fait.
Voilà, Estelle Nzeminko au micro de Xavier Monferrand. Les battantes, c'est leur surnom, n'ont plus rien à envier aux experts chez les hommes sacrés, eux aussi en début d'année. C'est la première fois depuis l'URSS en 1982 qu'un même pays domine la discipline chez les hommes et chez les femmes. En Ligue 1, la belle opération des Lyonnais. Hier soir, vainqueur de l'OM 2-0 en clôture de la 18e journée. Lyon remonte à la 3e place et Marseille prend l'ascenseur dans l'autre sens, 4e désormais.
Et on termine avec le retour d'un géant du rap.
Revoici Eminem. Après 4 ans de silence, il sort son nouvel album à 45 ans. Il s'est entouré de plusieurs grands noms, Pink, Ed Sheeran, Beyoncé, mais visiblement, ça ne suffit pas pour faire de cet album un retour réussi, Mathieu Culeron.
C'est ce qui s'appelle rater son retour. Avec Revival, Eminem semble se tirer 2 balles dans chaque pied en sortant un album aussi lourd sur le fond que sur la forme. À l'écoute de cet album outré et trop long, on se dit surtout qu'Eminem à 45 ans ne se rend plus compte que le rap a évolué. que le rappeur convoque Pink, Beyoncé ou Ed Sheeran passe encore, mais on se demande bien ce qui a pu passer par la tête d'Eminem et de son producteur pour utiliser les samples éculés de Zombie des Cranberries ou encore de I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. I'm wrapped around a finger, a yo-yo on a string. She lets me sit there and just bang on until something better comes along and she'll just drop me like a hot potato. Les textes à la lourdeur pachydermique n'arrangent pas les choses. Eminem qui va jusqu'à comparer Donald Trump à Adolf Hitler sur son titre Like Home. Bref, ce dernier album d'Eminem est à oublier au plus vite pour éventuellement se souvenir de son statut de roi du rap à la fin des années 90. Revival, 9e album et a priori donc pas le meilleur d'Eminem, si on a bien compris Mathieu Culon. N'allez surtout pas l'acheter ou allez-y.
D'ailleurs, oui, on si peut vous au moins l'écouter. Oui. Ouais.